Vérissure, tellement plus qu'une alarme.
Les cambrioleurs sont passés par le jardin. On a mis du temps à se sentir à nouveau chez nous.
Avec l'alarme Vérissure, ça n'arrivera plus. Les intrus sont détectés avant qu'ils ne pénètrent chez vous. Et en plus, nos agents préviennent les forces de l'ordre si nécessaire. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Merci d'ouvrir le micro. La suite des grandes choses, problème, la suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec Zora Bitant, la fonctionnaire Didier Giraud, l'éleveur de bovins, et l'éducateur Étienne Liebig. Les grandes gueules au cœur de ces législatives, on est à 4 jours du second tour. On va continuer d'en parler avec notre invité.
RMC, l'invité des grandes gueules.
C'est Loïc Signor, candidat Ensemble, donc macroniste dans le Val-de-Marne. Bonjour.
Bonjour Olivier.
On va pas parler de votre circo parce que sinon on est obligé d'ouvrir les temps de parole. C'est très compliqué. Ce sont des règles très strictes fixées par l'ARCOM. Simplement, vous faites partie de tous ceux qui disent au sein du camp présidentiel, il faut faire barrage au Rassemblement National. Donc, alors vous avez décidé de vous maintenir parce que selon la configuration de votre circo, c'est la meilleure façon de faire barrage. Voilà. Mais la question qu'on se pose dans les grandes gueules depuis ce matin, c'est est-ce que le Front Républicain, ça fonctionne encore ? Est-ce que on a fait ça depuis 2002 et maintenant le Rassemblement National est aux portes du pouvoir. Donc quand même, on s'interroge.
Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Le Front Républicain, d'ailleurs, il est au cas par cas dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est pas un Front Républicain voté pour un tel, pour éviter un tel. En tout cas, dans mon cas, c'est plutôt un maintien tactique pour éviter de garnir les rangs du Rassemblement National. Mais c'est pas non plus pour travailler avec la France Insoumise demain. Au contraire, moi,
il n'y a pas une alliance contre nature Mélenchon-Macron. Bah, moi,
je dis
soir.
Non, je crois pas. Honnêtement, j'ai toujours dit sur vos plateaux ce que je pensais profondément de la France Insoumise, qui m'inquiète énormément. Et je crois que si la France Insoumise pouvait être seule à la tête d'une majorité absolue, j'aurais à peu près le même discours. Moi, je ne veux pas, qu'on soit très clair, que la France Insoumise gouverne ce pays, et je ne veux pas que le Rassemblement National gouverne ce pays.
Et vous dites qu'aujourd'hui, c'est le Rassemblement National qui a plus de chances d'avoir la majorité absolue.
Clairement. On le voit dans les sondages, on le voit dans les résultats du premier tour, on le voit dans les projections en siège des différentes études. Donc oui, il y a une forte probabilité qu'il y ait ce risque, et donc il faut
mais
tout faire pour
ne
l'empêcher.
Pas laisser les gens choisir.
Non, mais je laisse les gens choisir, et c'est d'ailleurs la raison de mon maintien, c'est qu'ils auront un bulletin.
D'accord, mais ailleurs, dans la plupart des circos, le candidat arrivé troisième Ensemble, j'allais dire Renaissance, mais Ensemble, bon, c'est, enfin macroniste, a dû se désister. Donc finalement, on a eu tout à l'heure des électeurs qui étaient un peu,
oui, mais
qui étaient orphelins, qui disaient mais finalement, j'ai plus mon candidat, il a pu se maintenir, ouais. Et j'ai pas vraiment envie de choisir entre les deux qui restent.
Bah, ça a été mon choix, moi, de me maintenir pour laisser sur la table un bulletin républicain. Pardon.
Donc malgré les consignes élyséennes, il y en a.
Moi, je me maintiens parce que je suis dans une particularité
c'est
où le RN.
C'est un truc important parce que non, l'exemple qu'on a eu.
Moi, je vais pas parler de la circo.
Non, on va juste pas parler de la circo. J'ai dit qu'on parlait pas de la circo.
Mais simplement dans un risque où le RN est arrivé très très haut en tête.
J'ai compris ça.
Dans une autre circonscription que la mienne, on a préféré plutôt se désister plutôt que d'avoir à affronter demain un gouvernement Bardella dont on sait pertinemment qu'il sera mortifère, dont l'action sera mortifère pour le pays et qui va nous pousser dans un chaos très rapidement parce que on le voit ces dernières semaines. Bardella change de discours à peu près tous les jours. Il y a, on l'a vu, des candidats RN qui sont extrêmement dangereux, dangereux pour la République par leur prise de position contre l'état de droit, contre le droit de la presse, contre le droit des femmes. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, la priorité, je le dis bien, c'est de faire barrage au Rassemblement National. Demain, il y aura une nouvelle priorité. Exclure tout accord, toute discussion avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Je lisais dans le Canard Enchaîné encore des nouvelles sur Rima Hassan. Je peux vous dire que j'ai pas envie de travailler
avec eux. Votre cas est particulier, mais dans le cas d'un désistement du troisième,
le cas majoritaire,
qui est le cas majoritaire, qui est un macroniste, et on laisse un LFI à Rassemblement National. Aujourd'hui, les gens, ils ont quand même pas le choix que d'aller à la pêche ou de voter pour un extrême droite ou de voter pour un extrême gauche, quoi.
Où il y a le vote blanc qui existe.
Dans tous les cas, il y aura un des deux extrémistes qui sera élu.
Je vais vous répondre très clairement. Je préfère un clown de la France insoumise qui ne peut pas gouverner à une majorité absolue du Rassemblement national pour Bardella.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, responsabilité collective d'essayer de trouver des projets qui font avancer le pays. Voilà.
Oui, mais pour aller plus loin que ce que raconte Didier, c'est par exemple Jean-Baptiste Moreau, que vous connaissez bien, qui a été candidat Renaissance dans la Creuse, mais qui a été éliminé au premier tour, où lui dit les désistements qu'on a décidé, ils vont fabriquer du vote pour le RN sur des territoires comme le mien. Parce que dans les campagnes, en ruralité, les gens ne voteront jamais pour le candidat Front Populaire. Et donc, comme ils n'ont plus leur candidat
l'agriculture, macroniste
ou centriste, eh bien, ils vont aller vers le RN. Est-ce que finalement...
Il y a 1,8% d'agriculture.
Ça irrigue quand même tout un territoire, Étienne. Ça t'a peut-être échappé vu de ta banlieue, mais ça irrigue tout un territoire. Étienne, tu sais, en plus tu fais de la démagogie parce que tu le sais,
tu connais
le milieu rural, et tu sais qu'aujourd'hui ceux qui crachent sur l'agriculture, ils emmènent les gens vers le Rassemblement national. Mais bien sûr que si, longueur de temps à l'Assemblée nationale, ils le font, les extrêmes gauches.
Il suffit d'exiger juste un peu d'écologie, on se fait insulter.
Simplement que dans ces territoires-là, qui désagriculteront pas, on vote assez peu France Insoumise. Donc je pose la question, est-ce que cette vague de désistement ne va pas créer l'effet inverse dans certains territoires?
J'ai pas la boule de cristal. Effectivement, il y a ce risque.
Est-ce que vous avez bien étudié la carte électorale?
Oui, on a étudié. Et encore une fois, c'est dans le cas de Jean-Baptiste Moreau, ce sont des personnalités qui sont arrivées troisième. Donc, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas voté à gauche parce que la gauche est arrivée deuxième devant nous. Oui, donc, à un moment donné, il faut prendre en considération les résultats.
C'est pas un appel au vote. L'antimacronisme a été puissant.
Je ne sais pas si l'antimacronisme a été puissant. Si à 7 ans de pouvoir, 7 ans d'action, 7 ans de crise, nous arrivons nous seuls face à des blocs qui parfois font des alliances de la carpe et du lapin. Je pense à la Nouvelle Alliance Populaire, Nouveau Front Populaire, qui en réalité le 8 juillet ne sera d'accord sur rien, comme ils ne l'ont pas été pendant les européennes et comme ils ne l'ont pas été pendant les 2 ans qui se sont écoulés à l'Assemblée nationale. Au moins on a tenu, on a été cohérent, on a été constant, on n'a pas dit de mensonge aux Français, et malgré tout on arrive à 20% dans une crise politique majeure pour le pays, qui je crois appelle effectivement à un barrage contre le Rassemblement National, parce qu'on estime, et on a toujours estimé, que leur projet était dangereux, mortifère pour la France, mais surtout à une nouvelle conception de la vie politique. Et vous m'avez souvent invité sur votre plateau sur BFM TV, et je vous l'ai toujours dit, essayons de s'entendre sur des projets clairs, sur quelques priorités pour le pays. Dans 3 ans, il y a une élection présidentielle.
La fameuse majorité plurielle.
Mais en tout cas, moi, ce que je vois...
Étienne, là-dessus. Étienne, je vais vous poser une question.
D'abord là-dessus, pour le Parlement européen dont on vient de parler pendant 6 mois, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça.
Il y a des socialistes, des gens de droite et des gens du centre qui s'entendent tous les jours. Et parfois, des lois qui s'appliquent dans notre quotidien à tous. Il y a des gens comme François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann et Valérie Ayé qui votent ensemble, qui votent sur des priorités.
Ça existe.
Vous savez, la différence, c'est qu'il n'y a pas les caméras. Et quand il n'y a pas les caméras, c'est beaucoup plus facile de trouver des terrains d'entente parce qu'on travaille, parce qu'on négocie, parce qu'on essaye de trouver du compromis et qu'il n'y a pas la politique spectacle. Et ça s'est passé à l'Assemblée nationale ces dernières années, en dehors de quoi ? Du texte sur les retraites et en dehors du texte immigration.
C'est qui a créé ce contexte au Palais Bourbon ? Rassurez-moi. C'est l'extrême droite ou c'est l'extrême gauche ?
Alors moi, je pense que nos institutions sont fatiguées.
Question d'été.
Est-ce que vous croyez qu'un pays peut fonctionner pendant 3 ans, par exemple,
près du micro, Étienne,
avec ce qu'on appelle, par exemple, un gouvernement de technique, c'est-à-dire qui gère au coup par coup, parce qu'on risque de se retrouver avec cette figure-là, c'est-à-dire on prend un risque que plus aucune décision politique ne soit prise, qu'on gère le quotidien en attendant que ce soit sans faire de conneries, mais
premièrement, le Rassemblement National risque d'arriver en tête dimanche. D'accord ? Sans majorité absolue.
Donc
ça sera ingouvernable.
Non, mais alors attendez, il y a un autre gouvernement qui est arrivé en tête sans majorité absolue. Le nôtre,
c'est une dinguerie. 50 textes ont été votés par une majorité relative.
Avec l'apport des socialistes, avec l'apport de LR, avec l'apport des écologistes. Je prends un texte sur les énergies renouvelables. On a travaillé avec les communistes jusqu'au LR parce qu'on a parlé du nucléaire. Il n'y avait pas les écologistes, il n'y avait pas les écolos, mais on a trouvé une majorité sur ce texte. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il n'y avait pas les caméras. Bardella, pour moi, il est un peu lâche en disant.
si j'ai pas la majorité absolue, je gouverne pas.
Bah, parce qu'il a pas
ensuite,
envie.
Il a pas envie de faire.
Ah, bah, il a pas envie d'être courageux. Il a pas envie de faire avancer le pays. Ça, on est bien d'accord.
Utiliser 43 soit très courageux.
Bah, oui. Écoutez, ça fait partie de la Constitution. Après,
vous allez nous voir à partir de lundi prochain. Mais si on doit revoir. Ce que vous avez pas fait depuis 2 ans.
Mais ça, moi, j'ai 50 textes, cher monsieur, et pas tous au 49.3.
C'était formidable. Emmanuel Macron n'aurait pas dissous.
Je suis d'accord avec vous.
Pourquoi vous avez
pas fait ça?
Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis une chose. C'est pour ça que je dis C'est pour ça que je dis une chose. Oui, c'était ingouvernable par l'attitude de personnalités politiques.
Il n'y avait pas de majorité absolue.
Par l'attitude de personnalités politiques qui n'ont pas voulu jouer avec nous. Et je prends un dernier exemple. La réforme des retraites au Sénat, qu'est-ce qui se passe? L'archi Retailleau, il la vote, notre réforme, sans bruit, sans problème, avec du compromis, de la négociation.
Donc, Larcher, vous pourriez par exemple, Gérard Larcher.
Ben oui.
Essayez au concret.
Oui.
Gérard Larcher était à l'Élysée hier.
Oui.
Est-ce que c'est pour dessiner une future majorité?
Rien. Vraiment, là, je peux pas vous
la
dire.
La majorité plurielle, oui. Si je comprends bien, puisque c'est le terme utilisé par Gabriel Attal, référence à la gauche plurielle des années Jospin. C'est une majorité qui se ferait sans les insoumis et sans le Rassemblement national. Oui. Donc, qui pourrait inclure des communistes, des socialistes, des écolos jusqu'au LR.
Oui.
Très bien. Moi, j'ai entendu la maire de Nantes hier, qui défendait l'idée d'une majorité plurielle, maire socialiste de Nantes, Madame Roland, qui disait très bien, mais il faut me poser des conditions.
Ah bah, bien sûr.
Elle veut l'abrogation de la réforme des retraites et l'abrogation de la loi asile-immigration.
Donc là, tu perds les LR.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
En fait, non, parce que.
Bon, voilà. Donc déjà, c'est
une majorité plurielle, elle nécessite effectivement de la négociation et du compromis. Pour moi, j'ai un préalable à ça. Macron a été élu 2 fois, 30% au premier tour en 2022, arrivé en tête devant
donc
tout le monde.
Pas ce qu'il a
le
fait.
Parti socialiste est arrivé à 1%. Derrière, j'ai une règle d'or à partir du moment où on va négocier ensemble, c'est tout ce qui a été fait.
Donc
n'est
on pas ne touche
à
pas à la réforme des retraites.
En revanche,
donc vous dites c'est très important parce que la réforme des retraites, c'est l'un des points de désaccord majeurs.
Tout simplement qu'on y passerait 3 ans. On y passerait 3 ans la détricoter.
D'accord.
Donc bon,
mais
les décrets d'application sont pas
tout fait. C'est une des promesses fortes, celle qu'on a retenue du nouveau Front Populaire. On a retenu 2 choses, en gros, le SMIC à 1600 et l'abrogation de la réforme des retraites avec le retour de la réforme des retraites à 60 ans. Donc vous dites ça, on n'y touchera pas.
Mais je
donc
pense
vous croyez vraiment que
attendez.
Des socialistes, des écologistes vont aller.
Alors peut-être
avec
aller
à la soupe.
Non, c'est pas la soupe. Il faut être très clair, personne ne sera demain propriétaire seul de son propre projet, ni nous. Ni LR,
d'accord.
Ni la gauche.
Donc, il va falloir faire des concessions chez vous.
Et bien sûr.
Mais Macron, c'est pas
bien
quelqu'un
sûr.
Qui fait des concessions.
Mais oui, mais aujourd'hui,
moi,
il donne la
gauche.
Attendez,
qui mène la barre.
Mais il y a un problème.
C'est le plus costaud.
Je suis pas sûr que ce soit vous le plus costaud. Regardez, ensemble va avoir un nombre de députés qui sera sans doute supérieur au nombre de députés des socialistes.
Oui, mais pas, oui.
D'accord.
Ah oui, vous avez déjà associé ce
mais non, mais. Eux, ils restent unis, mais
non, non, mais encore une fois, je dis qu'on ne sera pas propriétaire de notre projet. Moi, demain, si on doit aller à gauche, sur le retour d'un impôt sur la fortune pour financer la transition écologique, comme le propose Jean Pisani-Ferry.
Vous êtes d'accord pour le retour de l'impôt sur la fortune?
J'ai bien dit, à la façon dont a été proposé l'impôt sur la fortune pour financer la transition écologique de Jean Pisani-Ferry, qui a été l'un des soutiens d'Emmanuel Macron en 2017.
Donc un impôt sur la fortune climatique.
Exactement.
C'était une des propositions.
Voilà, sur les entreprises, sur les grandes fortunes. Genre, il faut regarder, parce que ça, encore une fois, il faut donner des compromis. S'il faut aller pour la droite, sur un examen de quota d'immigration qui soit constitutionnel chaque année à l'Assemblée nationale.
Je ne vais pas l'accepter.
Mais attendez, encore une fois, personne n'est propriétaire de son projet.
Non, mais vous oubliez un truc dans votre histoire.
Soit on me dit le RN ne veut pas gouverner et qu'on n'arrive pas à trouver des compromis ensemble. Je vous ai donné 2 exemples assez costauds à dessein pour vous montrer qu'il va falloir trouver du compromis.
J'ai une question importante. Incroyable. Vous, depuis cette élection, c'est hallucinant. Les gens ont voté, premier tour. Ensuite, aux législatives, ils votent au premier tour. Ensuite, on les dépouille pour une grande partie de ceux ou de celles ou celui pour qui ils ont voté parce qu'il y a eu l'organisation des désistements. Deuxième tour, les gens votent. Et on est en train de nous expliquer que si une majorité de Français a mis 220, 240, 250 députés RN au gouvernement, eh ben, on va encore vous piquer.
Mais qu'ils votre, y aillent. Votre...
Mais Loïc, c'est pas moi qui le pense, mais moi je parle pas. Pas pour moi, je parle des Français.
Oui, je sais.
Moi, ce qui me préoccupe, c'est la France et les Français.
Mais pareil.
C'est pas moi. Moi, en plus, dans ma circonscription, c'est super. Je suis dans une configuration où je vais voter pour quelqu'un. Donc, je fais partie des chanceux. Mais je parle au nom des Français qui pourraient se reconnaître dans ce que je vais dire. je vote à droite, hein, j'en ai marre, je vote à droite, et on est en train de faire une tambouille pour faire un gouvernement centre-gauche. Oh là là,
Zora,
mais ça pique ça.
Je vais te répondre encore.
Non, mais
je vais te répondre encore.
C'est ce que je voulais souligner.
Mais, ah, mais ça pique.
Je vais te répondre encore plus simplement.
Non, mais c'est ingérable. J'ai compris. Mais c'est X.
Moi, j'estime, et peut-être que c'est pas partagé par tout le monde, que la politique menée à 95% par Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, ça va à peu près dans le même sens. On est pour l'économie de marché, on est pour l'Europe,
c'est pour ça
on est pour la social-démocratie.
Fait 10 millions de voix.
Mais moi je déplore les oppositions
donc,
systématiques.
Sauver le système quoi.
Non, c'est pas le système.
Le système veut se sauver.
C'est des valeurs. Mais non,
les
mais
gens,
encore une fois, si le système mais c'est des valeurs démocratiques.
Donc il y a 12 millions de cons.
Non, je dis pas ça. Je pense sincèrement qu'il y a aujourd'hui des oppositions systématiques qui sont des oppositions d'apparat, qui sont des oppositions d'opérette.
Mais ça, c'est le macronisme depuis 2017.
Mais c'est, non.
Mais ça, si vous l'avez fait, puisque vous avez pris des gens de gauche et des gens de droite. Bon.
Pour faire en marche.
Et aujourd'hui. Mais regardez Marleix. Regardez Olivier Marleix.
Attendez.
Pendant deux ans.
Comment vous allez expliquer aux gens?
Nous a tapé dessus à bras raccourcis, à nous faire croire qu'on était un coup des le péniste patenté, un coup des gauchistes patentés. À la fin, il se fait éliminer.
Oui, mais.
Parce qu'il n'a pas voulu donner un bon point à un mec qui a fait baisser le chômage de 2 millions. 2 millions d'emplois supplémentaires.
Non, mais Loïc, alors, dernière question, comment vous allez expliquer au deuxième tour en français?
Non, mais Zora, vous voyez ce que je veux dire?
Dites-moi l'argument.
Pourquoi il nous a tapé
français,
comme ça? Marleix nous a tapé comme ça?
Non, mais attendez.
Pourquoi Bertrand nous a tapé comme ça?
Non, mais ça, on le sait, ça, je le sais, les unitaires, machin, la dictature.
Pourquoi ils nous ont tapé comme ça? Parce qu'ils espéraient reprendre le flambeau derrière et à la fin, ils ont le RN.
Qu'est-ce que vous allez dire aux Français au deuxième tour quand ils auront voté massivement RN? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour leur dire, écoutez, votre vote, on s'en fout. Donc, on prend un gouvernement en coalition.
Mais je dis que Bardella
avec des
n'est
gens
pas courageux.
Qui ont nos valeurs.
Je dis que Bardella n'est pas courageux.
Il dit à Bardella de devenir Premier ministre.
En fait, si demain le RN arrive en tête à l'Assemblée nationale, le président de la République, par tradition et coutume républicaine, va appeler Jordan Bardella et lui proposer le poste de Premier ministre.
Alors, pour ne pas vous tirer une balle dans le pied, pourquoi vous êtes dans des tambouilles? Non, mais parce que ça circule.
Non, mais on peut aller plus loin.
Non, mais
changer le mode de scrutin. Moi, je le crois.
Mais
ça,
bien sûr.
Vous l'avez pas fait. Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir.
Mais pourquoi, Olivier?
C'est toujours
mais
quand on a perdu
non, mais
qu'on
va
faire
contre.
Ça.
Pourquoi?
Moi, j'ai toujours vu les politiques faire ça quand ils ont perdu.
Les Français étaient d'accord.
Il fallait faire un référendum.
Mais le Sénat était contre.
Vous avez fait un référendum. Alors non, Loïc, pardon.
Mais un référendum.
Vous faisiez un référendum sur la proportionnelle, ça passait.
Ça passait crème.
Les Français sont pour. Mais il fallait le faire au début, en 2017. Maintenant, il est tellement...
Oui, on a fait croire que l'affaire Benalla était une affaire d'État.
Mais pardon, je reviens sur votre histoire de majorité plurielle qui me paraît complètement lunaire. Parce que déjà, si on regarde les résultats du premier tour, le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas suffisamment de voix pour trouver une majorité absolue. Avec
même avec les décisions.
En écartant les 200 et quelques députés RN et la soixantaine ou 70 députés insoumis, je ne vois pas comment vous pouvez obtenir. Ça voudrait dire qu'il faudrait avoir 100% de socialistes, 100% d'écolos, 100% d'LR. Ça me paraît complètement... Donc j'ai l'impression qu'on vous racontait une fable aux électeurs pour leur dire qu'un autre chemin est possible.
Non, je raconte pas une fable, c'est mon souhait depuis toujours. Ça commence à faire beaucoup le mois de juillet en hiver là. Mais non, je l'ai toujours souhaité parce que c'est ce qui se passe partout chez nos voisins. Angela Merkel a gouverné avec la gauche, avec les Verts.
Mais c'est pas
ça
le même
pas,
système.
Ça n'a pas plongé l'Allemagne. Ça n'a pas plongé
dans un système présidentiel.
Mais c'est pour ça que je pense et je vous le dis toujours que les institutions sont fatiguées et donc c'est peut-être la prochaine. Mais c'est peut-être la prochaine étape et
de dire
et en constatant les institutions sont fatiguées, usées, qu'on ne les comprend pas toujours, qu'on fait passer des articles de la Constitution pour des actes dictatoriaux.
Pourquoi radicaliser les électeurs avant même qu'ils aient voté?
Je vous dis, Zora, très clairement que le Premier ministre aura...
Oui, mais
demain,
sauf que la musique qui monte, c'est de dire vous pouvez tous voter RN et de toute façon, on va s'organiser pour faire une majorité plurielle.
Mais qu'il aille à Matignon,
c'est ça qu'il faut dire.
Non, puisque je le dis pour qu'il n'ait pas la majorité absolue.
Mais oui,
ça marche.
Mais oui, mais oui.
C'est le jeu démocratique.
Non, mais à la fin.
Oui, mais à la fin,
personne n'empêche les gens de voter pour
toujours un bulletin RN sur la table.
Non, mais ça donne l'impression.
Mais oui, c'est l'impression que ça donne.
Il y aura toujours un bulletin RN sur la table. Les gens sont libres de voter.
T'aurais voulu quoi?
Non, mais interdit le Rassemblement National, les gens sont toujours libres de voter pour le Rassemblement National.
Mais ça donne l'impression qu'il y a 12 millions de personnes qui, quoi qu'il arrive, leur vote ne sera pas pris en compte. Puisque ces gens-là, quand on les interroge, ils disent ça fait des années
que le vote est pris en compte par tout le monde.
Non,
pour tout le monde.
Non, mais le vote pris en compte dans le sens où non seulement on ne répond pas aux problèmes.
Il y a pas de sous-électeurs.
On ne répond pas aux problèmes qu'ils soulèvent. Non, ils trouvent que depuis 20 ans, on ne répond pas à leurs problèmes.
Voilà, c'est ça là,
ils votent de plus en plus. Et qu'en plus, on va leur voler leur victoire.
Alors après, on peut faire un débat de fond. Moi, quand on me dit ça fait 20 ans qu'on répond pas à mes problèmes et que je regarde les 7 dernières années, et je vais pas vous dire que tout a été parfait, je vous mentirais.
Oui,
parce que forcément, tout le monde fait des erreurs. Mais pardon, pardon pour les électeurs de gauche. Quand on fait plus baisser les émissions de gaz à effet de serre en un an l'année dernière, qu'en 5 ans de François Hollande, on est allié avec les Verts, qu'on ne vienne pas me donner des leçons d'écologie. Quand on fait revenir 2 millions d'emplois alors que le candidat en Corrèze, qui n'a pas pu se représenter à l'élection présidentielle parce que, précisément, il n'avait pas réussi à faire inverser la courbe du chômage, qu'on vienne pas me donner des leçons. Alors, quand on recrée des usines dans le nord de la France, chez Xavier Bertrand, et là où on vote RN, là où il y a des usines de mégabatteries qui vont être ouvertes parce que l'attractivité française a été retrouvée là où elle était morte et aplatie pendant les 20 dernières années, qu'on ne vienne pas me donner des leçons. Donc moi, on peut me donner des leçons sur plein de choses parce que tout n'a pas été parfait, il y a eu des maladresses, il y a eu des erreurs, mais qu'on regarde aussi un peu le bilan à l'heure où on voudrait voter Rassemblement National pour tirer d'un trait de plume sur le bilan d'Emmanuel Macron.
Loïc Signor, Loïc Signor est face au GG. Vous pouvez lui poser des questions au 32-16, n'hésitez pas à appeler, on attend vos réactions et on continue de discuter ensemble. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC et RMC Story avec face au GG Loïc Signor. Il était porte-parole de Renaissance. Il l'est toujours, mais il est surtout candidat en ce moment. Candidat ensemble dans le Val-de-Marne. Bah, il porte surtout la parole du candidat qu'il est pour le deuxième tour dimanche. Et avec lui, on voit ce front républicain. Est-ce que ça va fonctionner face au Rassemblement National? Nous sommes avec Mamadou qui est avec nous au 32-16. Bonjour Mamadou.
Bonjour les grandes gueules.
Vous nous appelez de Fresnes dans le Val-de-Marne. Vous vouliez parler à Alex Signor, je vous laisse avec lui.
Eh ben, je voulais lui parler et je voulais parler à toute la Macronie aussi. Hein. Pendant 7 ans, il n'a pas écouté les Français. Pendant 7 ans, il a gouverné comme un roi. Nombre de 49-3 record. Donc aujourd'hui, pourquoi lui faire confiance aujourd'hui? Pourquoi lui faire confiance en fait? Vu qu'il n'a pas écouté son peuple. Voilà, aujourd'hui, le peuple se rebelle grâce aux urnes, tout simplement.
Est-ce que je peux juste vous poser une question, Mamadou? Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Moi, je suis infirmier.
D'accord. Donc vous avez profité.
Et il nous a pas écouté non plus. Hein. Et nous, il nous a pas écouté. Au contraire, il nous a piétiné.
Est-ce que vous avez profité du Ségur de la santé sur votre salaire?
Très très minime. Combien? Moi là, je suis arrêté là. Justement, je vais voir un patient.
Oui. Combien est-ce que vous êtes infirmier libéral ou à l'hôpital?
Non, je suis en HAD. Je vais chez les patients au domicile.
D'accord. Parce que
il nous a fait mal. Hein. Je peux vous dire qu'il nous a fait mal. Et le Ségur, c'est peanuts. Hein. Sur le salaire, ça représente 158 euros.
158 euros par mois.
158 euros par mois. C'est une prime, hein. C'est pas compté dans la retraite.
J'entends hein, que c'est jamais suffisant, mais 158 euros multiplié par le nombre d'infirmiers et d'aides-soignants. Moi, je vous prends quelqu'un que je connais bien, ma sœur qui est aide-soignante. Et son mari, pareil. Dans le Val-de-Marne, comme vous, Émile Roux à Limeil-Brévannes, dans la circonscription dans laquelle je me présente. C'est un gain moyen de 800 euros par mois. Parce que il y a effectivement, vous l'avez dit, des primes de nuit et le Ségur de la santé, c'est beaucoup d'argent qui a été mis sur la table pour augmenter des salaires qui étaient trop bas. Et je suis d'accord avec vous qu'ils sont toujours trop bas. Mais la preuve, en une seconde de discussion, je vois que vous avez quand même gagné 158 euros par mois de plus avec Emmanuel Macron.
Ce qui est pas mal.
Ce qui est pas mal. C'est pas suffisant.
Je vais vous poser juste une question. Voilà. Les députés se sont augmentés de combien là récemment?
J'en ai absolument aucune idée. Je crois que ça a été le cas, effectivement.
Eh ben, renseignez-vous. Les députés qui sont très bien lotis.
Mais c'est pas du salaire, c'est bien. Oui, mais c'est pas du salaire, mais c'est des frais. Mais après, monsieur,
c'est vrai que ça a été une connerie. Ça a été une énorme connerie politique.
C'est sans doute une erreur.
Je crois que c'est il y avait l'inflation.
Je crois que c'est des frais de représentation. C'est ce qui permet simplement aux députés.
Mais tout le monde a voté pour, hein, son
PLFI. Oui, tout le monde a voté pour. Mais surtout, c'est ce qui permet aux députés d'avoir des permanences sur le terrain, d'aller vous voir, de se déplacer. Et comme tout le monde, ça a suivi l'inflation. Est-ce que c'est une erreur? Sans doute. Je pense qu'il y avait d'autres priorités.
Au-delà de ça.
Mais au-delà de ça, je pense que je vais répondre à la première question. Est-ce que on a été à l'écoute des Français? Moi, je crois que oui. Et encore une fois, je le répète, mon discours est toujours cohérent. Il y a eu des erreurs, il y a eu des maladresses, il y a eu des prises de parole qui étaient sans doute à éviter. Mais je pense quand même, cher monsieur, que quand je vous vois à 158 euros par mois, c'est toujours pas assez, c'est pas suffisant, mais que des efforts ont été faits. C'est pas la gauche qui l'a fait. Cet effort salarial pour les infirmiers. C'est pas la droite auparavant qui a fait cet effort salarial pour les infirmiers. C'est pas dans les promesses de Jordan Bardella. C'est pas dans les promesses du nouveau Fonds populaire qui vous font croire qu'ils vont pouvoir augmenter le SMIC à 1600 euros. Mais cette augmentation, elle a un coût et elle va avoir pour principale incidence d'avoir à aller chercher des sous ailleurs. Et peut-être chez vous, monsieur, peut-être dans l'hôpital public, peut-être dans la fonction publique territoriale, peut-être chez les policiers que nous avons rééquipés. Vous voyez un truc bête, hein, les voitures de police. Elles étaient toutes blanches et fracassées. Aujourd'hui, elles sont grises et à la hauteur des missions et des attentes des policiers. Parce qu'on a changé le parc automobile des policiers. Mamadou. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas été à l'écoute des Français. Il y aura toujours des déçus, c'est normal. 7 ans, c'est court. 7 ans, c'est très court dans les crises que nous traversons.
C'est un septennat, c'est déjà beaucoup.
Un septennat avec les gilets jaunes, le Covid et la guerre en Ukraine et l'inflation.
Je sais, on pense toujours qu'il faut rester des années au pouvoir pour changer les choses.
Non, mais je peux vous dire que quand on est à 2,8%...
Quand tu démarres le mandat en voulant fermer les centrales nucléaires et puis qu'après tu promets à les construire, à un moment donné, c'est court.
Ça, c'est pas vrai.
C'est forcément court.
Non, pas fermé. Attendez, on peut pas dire... Trouvez-moi la preuve.
Vous avez fermé Fessenheim.
Trouvez-moi la preuve. Trouvez-moi la preuve. Il y a des journalistes rigoureux ici, qu'Emmanuel Macron a dit en 2017, je vais fermer les centrales nucléaires.
Si, il a repris le programme de réduction du parc nucléaire. Et ensuite, et d'ailleurs, c'était un deal passé avec Nicolas Hulot, qui était son ministre de l'écologie. Et ensuite, effectivement, on s'est rendu compte que c'était une erreur, notamment parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il faut à tout prix se détacher de notre dépendance avec la Russie. Et tout d'un coup, on est à fond pour le nucléaire. Bien sûr qu'il y a eu double discours là-dessus. Et le fait de fermer Fessenheim envoyait le message qu'effectivement, on était plutôt dans l'idée contre le nucléaire. Et quand on interroge, je termine, des ingénieurs, qu'on a du mal d'ailleurs à recruter, puisque la filière était plus intéressante, les ingénieurs nucléaires disent effectivement, à un moment donné, on n'a plus investi et le discours ambiant et politique était de dire il faut sortir de nos dépendances
nucléaires. En toute honnêteté, parce que c'est un sujet sur lequel je me suis particulièrement penché, très honnêtement, la fermeture, tu as raison de dire que la filière n'était plus intéressante, tu as raison, mais la fermeture de Fessenheim, elle était programmée depuis très longtemps. Depuis le jour où Fessenheim a été monté, puisqu'on dit une centrale, mais bien sûr, dure tant d'années. On dit une centrale dure tant d'années.
Et comme toutes les autres centrales.
Au bout de tant d'années. Oui,
et on les a pas fermées, les autres.
Oui, mais c'est la plus ancienne. Mais non, c'est la plus ancienne.
Parce que n'aurait pu la prolonger. Tous les experts l'ont dit.
Sauf que la sécurité n'était plus à 100%.
C'était un deal passé entre François Hollande. Et je vais même dire, c'était un deal qui était passé entre Martine Aubry et Cécile Duflot. Précis, non mais je connais très bien l'histoire. C'est un deal qui est passé entre Martine Aubry et Cécile Duflot en 2012, lorsque François Hollande accède au pouvoir. On va fermer Fessenheim. Finalement, François Hollande ne ferme pas Fessenheim, il repousse ces choses. Et Emmanuel Macron, qui prolonge en quelque sorte ce deal avec
Nicolas Hulot. Et qui avait besoin des écolos pour faire une majorité plurielle.
Avec Nicolas Hulot, il décide de la fermer
à la date à laquelle elle devait fermer. Oui. Je suis désolé. Hein. Après, vous pouvez imaginer mais tout ce que
Toutes les centrales ont été prolongées parce qu'effectivement elles avaient
une durée de vie
et qu'on les prolonge parce qu'on peut les prolonger. Bon bref, on va refaire l'histoire.
En fait, on se retrouve avec un truc assez récurrent, c'est que une fois que les Français détestent un président, et ça a été le cas pour Sarkozy, Hollande et Macron, fois que cette haine s'est cristallisée, de toute façon plus rien n'est entendable. Il y a des mesures qui ont été très bonnes, il y a des choses qui ont avancé, c'est vrai, mais les Français s'intéressent pas à la politique dans le détail. Ils s'intéressent pas à l'action en elle-même. C'est-à-dire qu'ils lisent pas. C'est très raccourci.
On me parle des 49 points, mais on ne parle pas des 150 euros supplémentaires.
Non, mais c'est Loïc, c'est encore pire. C'est-à-dire que les Français ne sont pas initiés à aller regarder dans le détail les mesures qui sont prises et qui changent leur quotidien.
C'est une erreur de communication.
Non, mais même, si tu veux, il y a plein de... Aujourd'hui, la presse, elle est à notre disposition. On ne peut pas dire qu'on n'y a pas accès. On est quand même dans un pays où les sources d'information sont vastes. Tu n'es pas obligé de te taper de la télé-réalité et du buzz. Tu peux aussi aller fouiller, tu peux aller lire. Et si tu regardes dans les détails, il y a des initiatives intéressantes, y compris avec Sarko et y compris avec Hollande. D'accord. Mais une fois que tu as détesté, c'est mort.
D'accord.
C'est fini, on vit que là-dessus.
On va aller maintenant dans les détails avec Mathieu qui nous appelle au 32-16. On remercie Mamadou. Mathieu, bonjour.
Bonjour les GG.
Vous êtes artisan boucher en Gironde.
Exactement.
Et vous aviez une question à poser à Loïc Senior.
Oui. Alors, ma question, elle est très simple. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter. On a de moins en moins d'ouvriers. et on vient de nous supprimer la taxe d'apprentissage pour toutes les entreprises, hein, voilà, tout corps de métier confondu. Donc on va manquer cruellement d'apprentis. Et à partir de l'année prochaine, il va y avoir un déficit d'apprentis, à mon avis, qui va être pharaonique. Parce que je viens de recevoir le courrier de RSAPA plus tard que cette semaine, m'annonçant que la prime d'apprentissage était supprimée. Donc je souhaitais voir qu'est-ce que le gouvernement ou la majorité présidentielle souhaitait faire là-dessus.
C'est une très bonne question. Et encore une fois, c'est voilà, toute la complexité de montrer le bilan qui est le nôtre, parfois. Il y avait 300 000 apprentis à la fin du quinquennat Hollande par an. Il y en a aujourd'hui 1 million. 1 million, notamment bah oui. Grâce à ce dispositif fiscal dont vous parlez. Aujourd'hui, ce dispositif...
Demain, ça va redescendre à 300 000, quoi.
Alors, ça veut dire que c'est très triste. Parce que si on redescend à 300 000 parce qu'il n'y a plus l'avantage fiscal, ça veut dire qu'on a en fait incité des gens à recruter des apprentis. Ça veut dire qu'on doit payer des patrons, c'est ça, pour qu'ils engagent des jeunes.
Et c'est le même système que payer le SMIC à 1600.
On a été incitatif. On a été incitatif. Ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné, parce qu'on a réussi à recréer une filière qui était totalement ratiboisée et que la gauche avait abandonnée. Et on est passé de 300 000, je crois que c'est 300 000, c'est peut-être même moins, à 1 million d'apprentis par an.
Comment on peut refinancer?
Et alors, il faut retrouver du financement, mais à un moment donné, on va pas faire payer, parce que c'est de la dépense publique, cet avantage.
Bien sûr.
Aux gens, le recrutement d'apprentis par les patrons. On a montré que c'était possible. On a montré que c'était possible.
C'est de la richesse pour le pays.
Énormément d'argent.
Mais c'est beaucoup d'argent.
Mais on le fait bien.
Non, mais ça veut dire qu'on a
trouvé. Dans d'autres études, on le fait bien.
Non, mais ça veut dire qu'on a trouvé.
C'est ça, affreux.
Ça veut dire qu'on a trouvé une solution. Que les patrons peuvent embaucher, qu'on peut former, qu'on peut bien former et qu'on peut insérer dans la société des jeunes qui n'ont pas fait un parcours classique.
Mais oui.
Ça, c'est ce qu'on a fait nous. Et aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas jouer le jeu de l'incitation fiscale toute la vie. Parce que sinon, c'est de l'argent qu'on met pas.
Mais on est dopé à l'incitation fiscale.
En fait, je vais résumer les deux questions. Si je mets trop d'argent pour les patrons pour qu'ils recrutent des apprentis, je ne mets pas d'argent pour le salaire de Mamadou. Et pour l'hôpital public, et pour les infirmiers. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Moi, j'ai vu que des patrons savaient embaucher, savaient former, parce que les apprentis, c'est de la formation.
Et c'est au patron de prendre le relais.
Voilà. Pardon ?
C'est au patron maintenant de prendre le relais.
Bah, je pense qu'à un moment donné, les patrons, ils ont été quand même beaucoup
aidés. Le problème, c'est que...
Et on a incité au retour à l'emploi.
Merci.
Oui,
moi, je suis d'accord avec vous. Mais il y a combien de petites entreprises ? De TPE, parce qu'on pense que sur les grosses. Nous, on est des petits.
Non.
Le problème, c'est que moi, si vous voulez, je donne 5000 euros d'URSSAF tous les mois parce que j'ai deux salariés. Si vous voulez, moi, comment je fais pour embaucher un salaire, un apprenti, prendre du temps, passer du temps, parce que lui, il ne me fait pas gagner d'argent, l'apprenti. Moi, c'est du temps que je vais prendre sur moi.
Oui, si mais ça...
Oui, mais l'année prochaine, moi, je ne prends pas d'apprenti.
Mais
parce
c'est une forme...
Parce que cette date, elle est cruciale. Je ne serai pas tout seul dans ce cas-là.
C'est une forme de solidarité. Il y a une solidarité.
Mais aujourd'hui, c'est pour redonner de l'engouement à notre. Même là, parle pour notre filière. Notre filière, elle est sacrifiée.
Je pense qu'on est tous les deux d'accord, cher monsieur. C'est extrêmement important et je pense que c'est bien.
Nous, dans notre petit village, si vous voulez.
Dans 40 ans, il n'y aura plus de boucher.
Bah non.
Même avant, vous avez toutes les grandes surfaces qui vont fermer tous les rayons de trade parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de boucher.
Bien sûr.
Nous, ça nous arrive. On met 6 mois pour recruter un boucher.
Mais c'est pareil dans la restauration, c'est pareil, il y a des tas d'endroits.
C'est pour ça que si on supprime, vous voyez, des petits trucs comme ça, qui aident les entreprises, et qui vont faire de nouveaux salariés, moi je trouve ça complètement ridicule de supprimer cette aide. Parce que justement, ça permet, avec les petites TPE et PME qui sont très mal financièrement aujourd'hui, comment on va faire pour renouveler les salariés qu'on va avoir demain?
Vous résumez encore une fois toute la difficulté qui est la nôtre. Vous êtes en train de me dire, ne supprimez surtout pas quelque chose qui a été bien fait, alors que l'on dit matin, midi et soir que tout a été mal fait. Donc, moi, je vois quelque chose de particulier là, chez la filière dont vous parlez. Et je pense que la ministre de l'Apprentissage va pouvoir regarder au cas par cas aussi, parce qu'il y a des filières qu'on ne va pas sacrifier, bien évidemment. C'est simplement le fait de retirer cette incitation fiscale pour le plus grand nombre, parce qu'on sait que ça marche et qu'il y a la possibilité aujourd'hui de recruter des apprentis, de les former. Et c'est un investissement, c'est de la solidarité pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de redonner à nos jeunes la capacité d'être dans l'emploi très rapidement, formés, bien formés et en capacité aussi de vivre leur vie très rapidement. Maintenant, s'il y a des singularités dans des niches, dans des filières, il faudra s'y adapter, il faudra une clause de revoyure pour dire on peut garder cette incitation ou trouver un mécanisme qui permet qu'une filière subsiste et ne s'écroule pas. Et ça, vous avez entièrement raison. Mais encore une fois, c'est si je desserre un peu la focale et que je vous entends très bien, il y a quelque chose qui a été bien fait par ce gouvernement. Aujourd'hui, c'est important de le dire parce que tout n'a pas été mal fait contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, mais il y a des choix derrière, il y a une solidarité nationale qui doit aussi se mettre en place parce que d'accord. tout le monde ne peut pas profiter des mêmes avantages, sinon on va droit à la catastrophe et c'est malheureusement le discours qui est tenu par le Nouveau Front Populaire.
Stop. Dernière question très vite parce que je rebondis sur ce que vous dites. Dans votre majorité plurielle,
oui.
Il y aura quand même l'engagement de pas augmenter les impôts.
Je le souhaite.
Ah, pas sûr.
Je le souhaite.
Non, c'est vrai que vous êtes pour
l'ADN. C'est l'ADN. C'est l'ADN de la Macronie. Ouais. Ne pas avoir augmenté les impôts.
Alors, merci Loïc Signor. Bonne fin de campagne à vous. Merci. Dans un instant, les Français en direct. Nous partons du côté de l'Indre-et-Loire. Retrouvez notre reporter Caroline Philippe et Maxime, 35 ans, maraîcher bio.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Didier Giraud, Zora Bitant, Etienne Yebig et les Français en direct. Mais attendez, il y a l'alerte. L'alerte pour l'expérience RMC, c'est-à-dire on vous offre, et c'est seulement sur RMC, vos deux places pour la demi-finale de mardi prochain, 9 juillet à 21h pour cet Euro 2024. Il y aura, on l'espère, l'équipe de France engagée lors de cette demi-finale. C'est à Munich. Et là, on vous offre le voyage à Munich, la rencontre avec les équipes d'RMC et puis vos deux places mardi prochain, 9 juillet, 21h. Pour ça, il faut jouer dès maintenant. Vous avez 5 minutes. Vous envoyez le mot Euro au 7 32 16. Euro au 7 32 16. Les Français en direct.
RMC. Législative 2024. Les Français en direct.
Toutes les heures sur RMC, nous retrouvons nos reporters qui sillonnent la France de la rédaction d'RMC. C'est Caroline Philippe qui a posé ses valises dans l'Indre-et-Loire. Bonjour Caroline.
Bonjour les GG.
Caroline à côté de Maxime.
Oui, je suis au milieu des salades, des plants de courgettes avec Maxime, 35 ans et maraîcher. Donc ici, tout est bio. Maxime, vous avez voté Nouveau Front Populaire dimanche dernier et dimanche prochain, vous voterez pour la majorité présidentielle puisque votre camp s'est désisté pour le second tour de ces législatives anticipées. Pourquoi vous votez pour la majorité présidentielle ?
Ce serait pour faire barrage à l'extrême droite qui souhaite accéder au pouvoir. Pourquoi faire barrage parce que en tant que citoyen je trouve que c'est dommage d'avoir un candidat aussi jeune à peine 28 ans qui n'a encore fait que peu de choses dans sa vie et en tant qu'agriculteur moi je suis inquiet nous avons besoin de salariés français oui mais aussi immigrés parce que ils veulent venir travailler sur nos fermes, ils veulent venir travailler en France et moi je serais ravi de les accueillir et puis en plus de ça je suis maraîcher bio du maraîchage biologique en petite culture très diversifiée les Français demandent du maraîchage bio, ils demandent à ce que l'agriculture respecte l'environnement, ils demandent à pouvoir manger des légumes de qualité qui ne mettent pas en danger leur santé.
Maxime, donc en fait, oui. Bonjour, c'est Olivier Truchot. Pour vous, le Front Républicain, ça va de soi. Ça vous posez pas de questions. Vous dites, il faut faire barrage au RN. Il faut pas tergiverser parce qu'on avait vu quand même pendant les trois jours que certains hésitaient à faire ce Front Républicain.
Eh ben, oui, il faut absolument faire barrage au RN si s'il y en a la possibilité, parce que tous ces toutes les politiques qui vont être mises en place ne vont pas aller dans le sens de la protection des êtres humains, de la protection de la nature, de la protection de notre mode de vie en France.
Didier Giraud, autre agriculteur.
Du coup, moi, j'ai une question, Maxime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous expliquez que finalement, la Macronie vous a pas tant maltraité que ça, vous, l'éleveur, le maraîcher bio depuis 7 ans, quoi. Vous considérez que le bilan est acceptable et donc ça vous permet de voter pour eux aujourd'hui.
Ben, comme je le disais, je vote pas pour la Macronie, je vote contre le Front National, qui, lui, ne va pas aussi apporter de solution, et il va voter pour des accords de libre-échange, ce qui...
Ben, si vous votez pour la Macronie, il y a plus de chances d'avoir des accords de libre-échange qu'avec Jordan Bardella.
Oui. Oui, oui, mais je pense que la Macronie aura l'intelligence de s'allier avec
la gauche.
Les partis du centre et les partis de la gauche
pour contrer... Vous croyez à l'Assemblée plurielle qui, enfin, une espèce de gouvernement entre avec des macronistes et la gauche, une partie de la gauche en tout cas.
Est-ce que vous pensez que une fois parvenu au pouvoir, parce que vous donniez l'exemple du besoin d'immigration pour le travail. Vous pensez qu'une fois arrivé au pouvoir, le RN va par exemple sur des sujets comme ça rester aussi ferme qu'il l'est, alors que par exemple en Italie, on a vu c'est le patronat qui a demandé à Meloni l'arrivée de 850 000 migrants et elle a cédé immédiatement en un mois, alors qu'elle a été élue sur le fait de plus faire rentrer de migrants. Et donc, en fait, après il y a le pragmatisme qui se met en place.
La réalité.
Ouais. Et évidemment qu'il faut des gens pour travailler, même si on n'est pas dans la situation de 1,2 enfants par femme comme en Italie.
Moi, j'ai pas tellement envie d'essayer une possibilité d'avoir un gouvernement qui soit anti-immigration, qui soit pro-sécurité, qui soit qui empêche la France d'accueillir les personnes qui veulent venir. Et sachant que on connaît tout de même aussi l'immigration et qui va forcément arriver, on peut pas laisser toutes les personnes qui traversent la Méditerranée, on peut pas les laisser mourir dans la Méditerranée.
Moi, j'ai une question. Concrètement, Maxime, c'est quoi votre besoin de manœuvre sur votre exploit?
Ben, je suis en maraîchage diversifié et la valeur ajoutée de notre produit, c'est le travail manuel, c'est
Représente combien? Parce que moi, je connais plein de gars dans la vallée du Rhône qui travaillent avec des ressortissants européens, hein, qui travaillent avec de la main-d'œuvre, mais c'est des ressortissants européens. Hein.
Ben oui. S'ils veulent je suis totalement d'accord avec vous. Mais je vais vous donner un exemple très concret. En fait, il y a deux mois, il y a quelqu'un qui s'est présenté, un jeune du Bénin, qui avait 20 ans et qui souhaitait venir faire un contrat d'apprentissage à partir de l'année prochaine chez nous. Et il était sans papier. Donc, ça a impliqué plusieurs choses. Il fallait que je fasse des démarches auprès de la préfecture pour demander une carte de territoire, que j'aille contacter des associations d'immigration pour savoir s'il était pris en charge sur le territoire. Et moi, avec le phénomène de l'extrême droite qui est très anxiogène à l'heure actuelle, ben c'est vrai que j'ai pas
l'aventure. J'ai une dernière question, c'est important parce que vous dites que l'immigration, il faut laisser venir tout le monde. Secondes. OK, mais jusqu'à quand? C'est qu'à un moment donné, il y a des limites, non?
Ce qu'il faut savoir,
c'est que toute personne qui part de son pays se détache de son pays n'est pas extrêmement contente. Souvent, quand on part de son pays, c'est parce que on peut rien y faire. Oui. Vous, est-ce que vous partiriez de la France?
Oui, non, mais la question c'est pas celle-là. C'est est-ce que nous on peut accueillir tout le monde?
Je pense qu'on peut accueillir du monde parce que il n'y a
tout le monde. C'est pas pareil. Tous ceux qui veulent venir.
Maxime, merci Maxime. On va s'arrêter là parce que le temps qui nous était imparti est terminé, comme on dit. Merci à vous, Maxime. Merci à Caroline Philippe. Les Français en direct, c'est toutes les heures sur RMC jusqu'au second tour. Les Grandes Gueules reviennent bien sûr demain avec autour de la table Mehdi Ghezard, le patron de PME, Lina Dumont, l'intervenante sociale, et Emmanuel De Villiers, l'entrepreneur qui sera avec nous demain. Rémi Barré, bonjour. Quel sera le programme à partir de midi?
Salut Olivier, salut les Grandes Gueules. Dans un instant, on va parler du front anti-RN, de l'idée d'une coalition nationale à l'Assemblée nationale. Est-on en train de voler le vote des élèves? Jordan Bardella à Matignon, est-ce qu'il serait à la hauteur? Et puis pollution, panne, coût la voiture électrique est-elle une aberration? On a de nouvelles études. Premiers retours d'expérience, ça met un peu le doute. On va en parler et vous nous appelez au 32-16.
Allez, bon débat cet après-midi à l'écoute d'RMC.